rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, Thibaud Dautuile au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre belle région. Monseigneur Ginoux, bonjour.
Bonjour à vous Thibaud, bonjour à tous ceux qui sont les auditeurs fidèles de la radio.
Vous êtes évêque de Montauban et avec vous pendant ce mois d'octobre, nous avons évoqué la figure du père. La semaine prochaine, nous évoquions l'accompagnement des pères, des papas et ce renouvellement d'une soif spirituelle des papas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons une partie peut-être plus difficile à comprendre et à cerner, c'est l'évolution de notre société qui, par la voix du gouvernement qu'elle a élu, s'apprête à ouvrir le droit à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Alors d'abord, de quoi est-ce qu'on parle exactement, Mgr Ginoux ?
On parle de la possibilité qu'auraient des personnes vivant en couple ou seules d'avoir un enfant sans la présence d'un père, d'un géniteur. Bien sûr, il y a les banques de sperme qui se chargent de remplacer le don physiologique du père, mais l'homme n'apparaît pas. Il existe par la nécessité naturelle, mais il n'existe plus après. Ce qui veut dire que cet enfant va être conçu volontairement sans père. Et on ne retrouvera pas le père, et l'enfant saura qu'il n'a pas de père officiel.
Oui, parce qu'il faut rappeler que la loi interdit toujours d'aller chercher le père biologique.
Oui, donc, et puis d'autre part, ça serait très compliqué, parce qu'il pourrait y avoir des situations assez rocambolesques, voire immorales, d'enfants nés d'un même sperme, qui seraient donc des frères ou des sœurs. Enfin, voilà. Et puis, donc, voilà, cette réalité, elle est là. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que un homme et une femme, unis par un pax, par le mariage, par ce qu'on veut, ont la possibilité de procréer. Or là, il ne s'agit pas de pallier une insuffisance physiologique, une infertilité, on va dire. Oui. Il s'agit de donner volontairement à deux ou une personne qui ne peut pas procréer toute seule, ça c'est encore la nature, de lui donner le bénéfice de la procréation. Donc on dit que c'est une égalité, c'est faux. Ce n'est pas une égalité, puisqu'il n'y a pas égalité de départ. Les lois qui ont permis la fécondation in vitro entre un homme et une femme qui ne pouvaient pas naturellement avoir un enfant, dans la mesure où c'est entre deux, même si ça reste discutable, reste à l'intérieur du couple.
Il y a un bien pour le couple.
Il y a un bien pour le couple.
Si
on peut discuter, mais il y a un bien pour le couple. Oui. Tandis que là, ça n'est pas un bien poursuivi. L'union de deux personnes de même sexe n'est pas liée à la procréation, par nature. Or, on veut suppléer la nature en donnant la possibilité de fabriquer, cette fois, un enfant, qui est quand même porté par la femme. Ce qui sera plus grave encore, c'est quand il s'agit qu'une femme autre, étrangère, porte l'enfant. Mais là, on est dans un autre cas de figure, qui est la GPA, la gestation pour
autrui. Nous n'y sommes pas encore, a priori.
Pas encore, mais nous y allons à grands pas.
En tout cas, c'est effectivement une négation assez claire et ouverte de la paternité biologique. Donc,
on efface la paternité biologique. C'est évidemment le triomphe de la femme seule, de la femme dans le désir inconscient, je ne blâme pas ces personnes, de dominer la procréation, de dominer leur existence, mais avec cette incompréhension, à mes yeux et aux yeux de beaucoup, de priver volontairement un enfant de père. Nous avons vu rapidement au cours des entretiens des semaines précédentes combien la paternité équilibre l'enfant quand elle est bien vécue et que l'enfant vient d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, dans la réalité objective, l'enfant vient bien de la semence masculine dans cette affaire. Mais on ne veut plus en tenir compte. Donc c'est une négation du réel. On est donc dans l'idée que l'enfant n'aura pas de père. On est donc dans l'idéologie, c'est-à-dire ne plus penser le réel, mais penser l'idée et la réaliser. C'est une grave atteinte aux droits de l'enfant, parce qu'un enfant a le droit d'avoir, de connaître au moins, son père et sa mère, d'où les recherches en paternité, d'où les enfants adoptés auxquels on a donné le droit de retrouver leurs origines, etc. C'est donc vouloir priver volontairement un enfant de son père est un mal. Bien sûr, il y a des enfants qui sont privés de père. Tous ne s'en sortent pas aussi mal. C'est vrai, on peut expliquer tout cela par des statistiques, on peut justifier beaucoup de choses. Comme il y a des gens qui vivent avec très peu d'argent et qui ne s'en sortent pas si mal pour justifier la pauvreté, on peut faire toutes sortes de remarques. Mais ce n'est pas une raison pour cultiver et pour légaliser ce genre de pratique. C'est une pratique qui est nocive pour la société.
Aujourd'hui, on en est là. C'est quelque chose qui est lent, qui est subi. Comment est-ce que les sociétés ont été arrivées là ? Est-ce qu'on date assez souvent ce moindre besoin de la figure du père ou cette disparition du père de mai 68 ? Est-ce qu'il faut remonter plus loin ? Comment est-ce que vous analysez ça, cette évolution que nous contemplons aujourd'hui ?
Je vous disais hors antenne que j'avais lu dans les années 75-80, je ne sais plus très bien, un livre d'un médecin, d'un psychiatre belge qui disait « Vers une société sans père » était le titre de ce livre. Il m'avait passionné parce qu'on voyait poindre ce qui arrive aujourd'hui. Diverses théories étaient déjà à la mode et sans doute ont pris leur élan. Elles ne sont pas nées là, mais elles ont pris leur élan en 1968 avec une crise de la pensée très forte, dans la pensée européenne surtout, et qui a voulu renverser ce qui était la société précédente, renversée. C'est-à-dire là où les hommes, disait-on, avaient la première place, il fallait que ce soit les femmes. Et en fait, ce combat, ce féminisme est faux. Il n'est pas égalitaire, contrairement à ce qu'on croit. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours fondé sur le combat homme-femme, femme-homme. Or, l'égalité, ce n'est pas un combat. L'égalité, c'est le partage, c'est le partenariat. C'est la capacité de la femme d'avoir une mission dans la société, une mission dans le couple, mais pas de faire les mêmes choses que l'homme. De la même manière, si les hommes se mettaient à revendiquer le droit de porter des enfants, ça n'avancerait rien. Ce serait une confusion volontaire et nous ne sommes pas faits pour ça. Il y a une nature, il y a un fait de réalité qui est oublié. Donc ça vient bien. Ça s'est vulgarisé, si je puis dire, cette pensée, en 68, quand on a voulu qu'il n'y ait plus d'interdit aucun,
que tout soit transgressé. Et plus d'autorité. Et plus
la transgression permanente. Or, le père, l'image du père, est celui qui s'opposait à la transgression. Donc, il a fallu abattre cette image, comme dans la volonté de donner la parole à tout le monde, sauf que ça n'a pas été le cas, et ainsi de suite.
Mais ce n'est pas pour autant un désir ordonné d'un retour à un matriarcat ou quelque chose comme ça. On n'en est pas là.
Le matriarcat reste quelque chose de très, très limité dans des civilisations particulières, mais que ni les civilisations judéo-chrétiennes, ni romaines, ni celles qui ont marqué l'Europe n'ont jamais connu. Donc, ça n'est pas ça. C'était la volonté de puissance, d'autopuissance. C'est-à-dire, de la même manière, un livre vient de sortir sous l'homme fait Dieu, c'est-à-dire, c'est le transhumanisme, c'est la volonté de la toute-puissance de l'homme qui se construit, qui se fabrique. Et comme cette toute-puissance risquait d'être celle de l'homme masculin, ou du moins apparaissait comme celle de l'homme être masculin, les femmes, un courant féministe, qui est un courant d'idées, qui n'est pas un courant de réalité, les courants féministes ont voulu absolument que ce soit une auto-construction de l'être humain femme. Et en disant que, je suis libre de mon corps, c'est ce qui va donner lieu à la loi sur l'avortement. Or, ce n'est pas si vrai que ça, car mon corps n'est pas ma propriété. Mon corps, c'est moi. À telle enseigne que si je gifle quelqu'un, ce n'est pas la même chose que si je le viole. Gifler quelqu'un, ce n'est pas très correct. Je le reconnais, tout le monde est d'accord. Mais ça n'a pas la même gravité que d'être violé. Ou si vous faites, vous avalez quelque chose qui vous fait faire la grimace, ce n'est pas la même chose que vous faites la grimace ou le coup que je vous donne. Donc le corps réagit de ce que je suis. C'est mon expression. Quand on dit que les prêtres s'occupent des âmes, c'est bien vrai, mais s'il n'y avait pas de corps, ils ne s'occuperaient de rien du tout. J'ai jamais vu des âmes flotter. Donc le corps, c'est moi. Au lieu de dire, c'est comme mon enveloppe qui est ma liberté, j'en fais ce que je veux, comme de ma valise ou de ma voiture, c'est totalement faux. Parce que ce qui est grave dans notre société, c'est la négation du réel. Cela vient d'une pensée philosophique qui s'appelle l'idéalisme, c'est-à-dire c'est l'idée que j'ai des choses est plus importante que la chose. Donc, c'est ce qui a entraîné cela. On a oublié qu'il y avait une nature féminine, une nature masculine. Et on le refuse. Donc l'égalité n'est pas de faire la même chose, c'est-à-dire que nous portions des enfants. L'égalité, c'est d'être respecté chacun comme sujet de droit et de droits inaliénables. C'est ça. Après, les fonctions sont très différentes. Même si une femme peut bien conduire des 15 tonnes, ça n'est pas gênant, si ça lui fait plaisir. Voilà. Et un homme faire la cuisine, c'est très bien.
Voilà. Mais donc c'est d'un côté une société de l'autopuissance, comme vous le disiez, de l'autre côté aussi une société du désir.
Une des sociétés du désir qui conduit tout. Le désir est un bien en soi. Il n'est pas mal de désirer. Désirer fonder un foyer, désirer fonder un foyer heureux, désirer avoir une profession qui nous plaise, c'est très bien. Mais il y a des désirs qui sont à ma portée et d'autres qui n'y sont pas. Si je veux être oiseau, ce sera très différent. Penser que certains hommes, pour devenir femmes ou l'inverse, subissent des dizaines d'opérations et ils n'y arrivent pas. Ce sont des êtres tourmentés, abîmés, qui finissent en suicide, très souvent. Parce qu'ils ont l'idée d'être ce qu'ils ne sont pas, et ils sont malheureux. Et les opérations chirurgicales ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour améliorer une situation, et pas pour la transformer. Nous devons prendre conscience de cela. Le Seigneur nous a donné des moyens d'améliorer notre situation, faisons-le. Et ce que je dis n'est pas propre aux chrétiens, c'est propre à une nature humaine que je dois reconnaître.
Mais quel sujet complexe et délicat, nous l'effleurons à peine. Merci en tout cas beaucoup, Mgr Gineau, de nous avoir accompagnés aujourd'hui et pendant tout ce mois d'octobre. J'espère que nous avons pu apporter à nos auditeurs un peu de recul sur ces questions délicates qui entourent la paternité, et en tout cas que la figure de Saint-Joseph nous guide toujours et partout.
Merci Thibault, et bonne réflexion à tous.
Voilà, je vous dis à très bientôt, Mgr Gineau, et chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine avec Mgr Le Gall.
Rencontre avec nos évêques.